Bonjour à toutes et à tous, je suis Maria Atala et aujourd'hui nous sommes au Liban pour parler d'un projet qui me tient à cœur. Entre Beyrouth et Rome, entre Paris et Milan, la Méditerranée n'est pas seulement un espace géographique, c'est un espace de circulation, d'influence et de création. Aujourd'hui nous parlons d'un projet européen qui explore précisément ces trajectoires artistiques, le projet Laufra, consacré au monde de l'art libanais depuis l'indépendance en 1943. Plutôt que de raconter l'art libanais comme une histoire isolée ou enfermée dans les crises politiques, ce projet suit les artistes dans leurs déplacements, leurs expositions en Europe ainsi que leurs réseaux internationaux. Il révèle une histoire connectée et transnationale. Pour en parler, nous recevons Nadia von Malzahn, spécialiste de la question et directrice du projet. Avec elle, nous allons comprendre comment l'art circule entre les rives et comment l'Europe participe aujourd'hui à la redéfinition de ses histoires culturelles. Nadia von Malzahn, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entrer dans les détails, j'aimerais qu'on commence par le cœur du projet. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce qu'est Laufra et ce qui le rend différent des approches traditionnelles?
Bonjour, tout d'abord, merci de m'accueillir. Laufra, c'est Lebanon's artwork at home and abroad. En cours, Laufra, ça veut dire toile, une toile en arabe. Et c'est sur le développement du monde de l'art au Liban après l'indépendance et surtout la professionnalisation de l'art, la création des institutions comme des écoles de formation, l'école des académies de l'art, les institutions comme des musées. Il y a un seul musée en vrai qui s'occupe de l'art moderne et contemporain. Et au cœur du projet sont aussi les trajectoires des artistes. À partir de leur trajectoire, on essaie de comprendre l'évolution du monde de l'art.
Et ce qui frappe dans Laufra, c'est cette volonté de déplacer le regard, de sortir des récits nationaux. On sent qu'il y a derrière cela un choix fort. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement et intellectuellement à lancer ce projet?
J'avais un projet sur les politiques culturelles au Liban et dans ma recherche, j'ai travaillé sur le salon d'art, sur le musée sur Socle, surtout sur une des institutions culturelles qui m'intéressait, comme seul musée, une sorte de musée national de l'art moderne contemporain, mais qui est sous la direction qui a un lien avec la municipalité de Beyrouth et en attendant un musée national. Mais j'ai travaillé sur le musée sur Socle et qui était connu pour le Salon d'automne. C'est une exposition des artistes libanais ou des artistes qui étaient au Liban, alors la nationalité ne jouait pas un rôle, contemporain, qui a commencé dans les années 60. Alors j'avais un projet sur les salons d'art. Dans le monde arabe. Et c'était exactement les circulations entre aussi des formes d'exposition entre l'Europe et le monde arabe qui m'a intéressée. Évidemment, le format d'exposition du salon avait commencé à Paris avec le salon. Et après aussi en Angleterre, ça jouait un grand rôle pour la définition d'un canon, la canonisation de l'art. Alors, la question était un peu comment cette format avait migré, exporté dans la région. Et avec ce projet, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de choses à dire, mais qui n'étaient pas dites, qui n'étaient pas écrites. Il y a beaucoup de références, de matériaux, et même des archives, mais ils ne sont pas nécessairement unis dans un endroit. Mais oui, c'est comme ça que ça. Et ça m'a vraiment poussé, je pense. Je ne suis pas historienne de l'art en formation, je suis plutôt historienne et je m'intéresse pour les politiques culturelles et l'histoire culturelle. Mais c'était tellement frappant que oui.
Et vous parlez souvent de trajectoire plutôt que d'école ou de mouvement. Ce vocabulaire est intéressant, plutôt sociologique. Et pourquoi avoir choisi de travailler à partir des trajectoires individuelles des artistes et en quoi cela change-t-il notre compréhension de l'art libanais?
Parce que je crois que la trajectoire, alors on prend l'individu, on prend l'artiste comme point de départ et on voit la vie en totalité, on voit les mouvements, on peut mieux comprendre les motivations pour se déplacer parce qu'il y a toujours, surtout au Liban, il y a toujours l'idée, il y avait l'époque avant-guerre, la guerre civile a commencé en avril 1975 et a formellement fini en 1990, mais Alors, on pense toujours qu'il y avait cette période grise un peu, mais si on regarde les trajectoires individuelles, on comprend les choix, pourquoi quelqu'un a quitté pour un moment, pourquoi il est revenu. Ils ne sont pas, il y avait beaucoup des artistes qui sont partis, qui sont revenus, mais pour des raisons différentes, ou pas pour toute la période de guerre, mais il y avait un événement qui les avait impactés, ils sont partis, ils sont revenus. Alors, on voit beaucoup plus de nuances et on peut comprendre plus l'ensemble.
Et pour rendre ces trajectoires visibles, vous avez développé un outil numérique très important. Pouvez-vous nous expliquer comment fonctionne cette base de données et ce qu'elle permet de révéler que l'on ne voyait pas avant?
Oui, alors nous sommes en train de développer une base de données qui on espère être lancée en été pour être un outil pour des chercheurs et pour des amateurs qui s'intéressent à l'histoire de l'art libanais du deuxième moitié du XXe siècle surtout. C'est basé sur les données des artistes et institutions comme des galeries, les musées, le musée Sursok et autres musées ailleurs aussi. Un peu moins les œuvres d'art, parce que on n'avait pas nécessairement toujours accès aux. C'est difficile de publier les œuvres d'art. On se concentre surtout sur les institutions et les personnes, aussi les galeristes et les phases. Je ne sais pas phase, si c'est le bon mot, mais les événements significants de leur vie, comme les études, comme des expositions ou des voyages ou des déplacements. Alors, à travers la base de données, on peut voir le monde de l'art, comme on peut voir les connexions entre les institutions, les personnes, voir un peu la dynamique de ce monde et comment c'est connecté, qui a exposé avec qui ou comment c'était récit aussi. On a aussi des récits, on dit des critiques d'art sur les expositions, par exemple. Et un peu aussi, on peut voir comment ça continue d'être dynamique pendant toute la période. Il n'y avait pas une période vraiment grise comme on pense un peu de la période de l'époque de la guerre, mais il y avait plein des événements qui prenaient lieu dans les années 80, par exemple.
Et en travaillant sur ces mobilités, les expositions, les réseaux, vous touchez forcément à des questions plus larges, la migration, diaspora, institutions, reconnaissance. Et est-ce que Laouha, votre projet, permet aussi de repenser le rôle politique ou symbolique de l'art libanais, notamment dans l'espace européen?
Je crois que ça a permis de voir comment c'était tous connecté, alors c'est pas isolé. Les artistes libanais étaient, grande partie étaient formés aussi en Europe, et il y avait toujours des liens, des échanges et des relations entre les artistes aussi. Alors je crois que ça nous a permis de vraiment comprendre l'art d'une perspective plutôt globale et comment il se forme entre deux. C'est pas et on repensait les hiérarchies aussi, c'est pas une question d'imitation, c'était un peu le discours avant.
Vous le disiez, cette zone grise de guerre et tout ça, l'histoire culturelle du Liban est souvent racontée à travers ce prisme de la guerre et des crises. Pourtant, Laouha semble vouloir déplacer ce centre de gravité. Selon vous, pourquoi est-il important de ne pas faire de la guerre le seul prisme d'analyse de la production artistique? Pourquoi c'est important de changer de narrative?
Parce que pendant la guerre, c'était pas un événement seul, pas seul, mais ça consistait d'une série d'événements différents. Et si on prend la guerre comme prisme, ça définit, on dit, non, ça, oui, définit tous. Mais si on, alors, pour nous, une question importante est aussi de voir la continuité. Parce que normalement, l'histoire de l'art et l'histoire est un peu divisée en ce qu'il y avait avant la guerre. On parle souvent les années d'or, la fin des années 50 jusqu'aux années 70, où Beyrouth surtout était un peu la capitale culturelle de la région. Et après, on ne parle pas trop de la période de guerre, et après, on parle de la période d'après-guerre, où il y avait toute une nouvelle génération qui surtout aussi s'intéressait pour la mémoire et pour comment on perçoit cette période de guerre. Et alors, pour nous, c'était intéressant de vraiment voir la continuité aussi des artistes qui ont continué, qui ont commencé pendant la guerre à travailler. Mais on vient de sortir une publication sur l'art dans les années 80. On a choisi de ne pas l'appeler l'art sous la guerre, parce que si on fait ça, on cherche la guerre. Mais les artistes ont eu une relation très nuancée de comment vivre avec la guerre. Et quelques-uns ont voulu montrer qu'il y a autre chose que la violence. Et alors, je crois que si on ne prend pas la guerre comme point de départ, on découvre autre chose. La guerre était très présente et la guerre a défini la vie à la fin, mais on cherche autre chose. Oui.
Et au-delà du monde académique, on peut se demander quel est l'impact concret de ce projet. À qui s'adresse Lawha? Aux chercheurs, musées, artistes, le public libanais,
Ça s'adresse peut-être premièrement aux musées, aux chercheurs, ou tout ce qui est intéressé à la recherche professionnellement, mais aussi au public intéressé. Je crois que c'était aussi un peu un point de départ qui a beaucoup d'intérêt en l'art libanais, en l'art de la région, mais très peu de des informations. Et il y avait S'il y avait des biographies, par exemple, les mêmes sources étaient répétées, même s'il y avait des fautes. Et avec la base de données, par exemple, on ne veut pas mettre à disposition des biographies, mais des dates clés, des événements clés, des artistes et institutions. Et avec les publications aussi, ça s'adresse à tout le monde qui s'intéresse à la production artistique.
Après plusieurs années de travail sur Laouha, j'imagine que votre perception de la scène artistique a beaucoup évolué. Qu'est-ce que ce projet vous a appris ou peut-être surpris sur l'histoire artistique du Liban?
Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de surprises en fait, c'est parce que c'est un travail quotidien qui prend beaucoup de temps et c'est aussi un peu un travail de documentation. Et c'est aussi on cherche de mettre la lumière sur des artistes qui étaient un peu oubliés. On se demande aussi pourquoi ils étaient oubliés. Alors je crois qu'il n'y avait pas vraiment des très grandes surprises comme surprises, mais c'est surtout la réalisation. C'est une histoire très très riche et aussi qu'il y a beaucoup de références, des matériaux qui parlent de trajectoire des artistes, mais qu'il faut chercher.
Et pour terminer, j'aimerais revenir à quelque chose de plus personnel pour vous. Si vous deviez résumer Lawha en une phrase, une image, ça serait quoi?
C'est difficile. Alors, on a une image qu'on avait utilisée pour représenter Lawha, c'est une image d'une œuvre d'Itl Adnan qui ressemble un peu à une maison, parce que Lawha, c'est Lebanese art at home and abroad, et c'est cette connexion entre d'être chez soi et ailleurs, et les relations entre deux. C'est vraiment, c'est pas un bon mot, mais c'est l'ensemble, peut-être, qui fait
Qui
Lawha.
définit, oui.
J'ai fini Lawha.
Ok, merci beaucoup. Et pour finir, comment est-ce qu'on peut suivre le projet, l'avancée du projet?
Nous avons un blog qui s'appelle lawha.hypothèse.org. Lawha, ça s'écrit Lawha. Et là, on met toutes les nouvelles. Ou bien sûr, le site de l'Institut, Orient Institute Beyrouth, qui est l'institution de recherche où nous sommes basés.
D'accord, merci beaucoup d'être avec nous et
Merci.
bonne continuation, merci.
Merci.